quelle importance les municipales ont comparé aux autres élections pour vous ?
Les municipales, c'est l'héritage local des élections en France depuis 1945, donc c'est important pour être plus proche des citoyens.
Ça a moins de valeur, mais en fait, là par exemple, l'idée que ce soit Rachida Dati qui passe pour la mairie de Paris, ça me déplaît.
Au niveau de Paris, je pense que c'est quand même important au niveau de la gestion de la ville, et on ne peut pas dire qu'on a été gâtés ces dernières années.
Donc... Est-ce que vous sentez que votre vote a un poids ?
Non.
Oui ?
Moyennement. On ne sait pas. Peut-être le poids des jeunes est moins important que le poids des autres électeurs, mais on espère inverser la tendance.
Je commence à me poser des questions parce que je vote dans le 12e depuis 20 ans à droite, et c'est toujours à gauche que ça gagne. Donc je me demande si vraiment ça sert à quelque chose.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Commune Voix, une émission proposée par les étudiantes et étudiants de l'Université de Paris 1 à l'occasion des élections municipales. Au programme de ce soir, un décryptage complet des élections municipales. Nous reviendrons sur le mode d'emploi du scrutin et ses caractéristiques, comment ça marche concrètement. On parlera de la réforme Paris-Lyon-Marseille, on se demandera quelles sont les compétences du maire et quel est son rôle au quotidien. On entendra aussi quelques chiffres pour comprendre les enjeux des municipales. Nous en parlerons avec notre invitée Astrid de Villene, journaliste à France Culture et autrice du livre « Décrypter les institutions politiques ». Voilà, vous avez le programme, on est ensemble en direct jusqu'à 19h. Mais pour commencer, avant de retrouver notre invitée, on va parler du rôle du maire dans les grandes lignes avec toi Mathilde.
Bonjour Baptiste. Et oui, en effet, un petit récap de ce que c'est que d'être maire avant de nous pencher sur le sujet des élections grâce à notre invité, ce n'est pas de refus. Tout d'abord, c'est quoi un maire ? Ou plutôt, c'est qui le maire dans la vie politique française ? Alors on le définit avant toute chose comme l'agent exécutif de la commune où il a été élu, ce qui veut dire qu'il agit sous contrôle du conseil municipal qui, lui, représente les habitants et doit exécuter leurs décisions. Le conseil municipal peut également déléguer certaines compétences au maire, des compétences qui vont de l'ordre de la création de nouvelles classes dans une école au pouvoir d'intenter une action en justice au nom de la commune. Cependant, ces délégations sont révocables à tout moment et il ne faut pas oublier que le maire doit continuer à rendre compte de ses actes devant le conseil. Il ne peut pas faire tout ce qu'il veut tout le temps, sans oublier son devoir et sa responsabilité, face à l'Assemblée qui représente la voix des habitants de sa commune. Donc non, Baptiste, je suis désolée, tu ne pourras pas forcément créer une école d'enfants surdouée à ton nom, même si tu te fais élire maire. Excuse-moi pour ça. Mais le maire est aussi titulaire de pouvoirs propres, c'est-à-dire de pouvoirs dont il est le seul détenteur. C'est le cas des pouvoirs de police administrative, en ce qu'il est responsable, et je cite, « d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique ». D'ailleurs, il est légalement considéré comme un officier de police judiciaire au nom de l'État. En plus de cela, il est représentant de la commune devant la justice. J'espère cependant que cette fonction a des limites, car aux dernières nouvelles, la ville entière de Levallois-Perret n'a pas eu l'obligation de porter un bracelet électronique après les divers aménagements de peine de Patrick Balkany. Pas très sympa de leur part, ils auraient pu avoir un geste de solidarité, franchement. En outre, le maire est aussi, et il ne faut pas l'oublier, un représentant de l'État. Il est officier de l'État civil et est chargé en ce nom du recensement citoyen de sa commune. Il peut donc célébrer les mariages et enregistrer les naissances et les décès sur le registre municipal. C'est également lui qui organise les cérémonies patriotiques locales, comme la fête du 14 juillet, ce qui doit être assez fun à organiser, et les élections, ce qui est sans doute un peu moins fun à organiser. Évidemment, dans les grandes villes, toutes ces tâches ne lui reviennent pas automatiquement, car je doute que tout le monde ait le droit à un mariage officier par Anne Hidalgo, sinon elle n'en finirait jamais. Enfin, je tiens à préciser que ce condensé n'a pour but que de vous infliger une petite piqûre de rappel, car la fonction de maire est certainement infiniment plus complexe que ce que je peux faire tenir en quelques minutes. Mais le plus important reste sans doute ceci, le maire est le dernier rempart d'une politique proche des Français, qui peuvent parfois se sentir déconnectés des enjeux nationaux quand ces derniers sont loin de leur réalité quotidienne.
Merci beaucoup Mathilde, c'est déjà beaucoup plus clair. Bonsoir Astrid de Villene, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste à France Culture et autrice du livre « Décrypter les institutions politiques ». Bienvenue à vous.
Merci, bonsoir tout le monde.
Bonsoir. Pour commencer cette interview, nous voulions savoir finalement à quoi correspond un petit peu le maire. Dans votre livre, vous insistez sur le rôle des institutions dans la démocratie. Finalement, où se situe le maire dans le grand schéma des institutions françaises ?
Le maire, c'est un élu important, comme vient de le rappeler votre chroniqueuse. parce que voilà, c'est souvent le premier élu auquel on pense, auquel on a affaire, qu'on peut identifier. Presque le premier échelon. Ensuite, on pourrait aller vers le député, vers la communauté de communes encore avant, vers le député européen. Tout ça semble s'éloigner. Donc, il a une importance particulière. Et puis, c'est aussi il y a environ 36 000 communes en France, donc c'est aussi des plus petits territoires à gérer, donc forcément plus de proximité.
D'accord. Ben justement, je rebondirai tout à l'heure sur le nombre, la densité des communes, le fait que voilà, on a un tiers de communes en France qui représentent un tiers des communes européennes. Mais pour le moment, pour éclairer un petit peu nos auditeurs, nos auditrices, nous voulions savoir un peu les compétences clés d'un maire et les compétences notamment que les citoyens ignorent souvent. Et en quoi on peut distinguer justement ces compétences précisément de la région, d'un département ?
Alors, ça, c'est vraiment une excellente question. Donc, le maire, souvent, on le réduit, entre guillemets, mais c'est la chose auquel on pense le plus souvent pour ceux ou celles qui auraient assisté à des conseils municipaux de leur commune. On pense souvent à la voirie. Ben, ça, c'est quand même un rôle important, vous voyez, l'état des routes, etc. La commune, par rapport au département et à la région, c'est aussi la responsabilité des écoles. Donc, c'est pas rien, notamment là, en ces temps de, par exemple, de inondations, etc., dans le sud-ouest de la France, bah, typiquement, ils sont en première ligne là-dessus. Ils peuvent aussi avoir des pouvoirs, on en parle souvent en ce moment dans la campagne, de police municipale, de sécurité. Et je trouve que ça, on l'entend beaucoup dans la campagne parisienne, comme les compétences ne sont pas très connues, sont parfois un peu mélangées, par exemple la propreté, on pense souvent que c'est le maire, en réalité c'est l'intercommunalité, la communauté de communes au-dessus, tout ça est assez flou pour les citoyens et on peut les comprendre. Donc souvent le maire, en fait, il prend à sa charge beaucoup, beaucoup d'autres problèmes qui ne sont pas forcément dans ses tâches. Et j'entendais, par exemple, le candidat socialiste à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire, dire, par exemple, les tentes de migrants qu'on peut voir sous certains métros, c'est pas mon rôle, mais je vais m'en occuper. Donc même eux, ils ont intégré l'idée que c'est pas dans leurs attributions. Mais en fait, on les attend quand même là-dessus, dans une campagne et dans un mandat.
D'accord. Il y a des formes de conflits entre échelles de décision.
Ça dépend, parce que quand c'est les mêmes couleurs politiques, ça peut très très bien se passer. Mais c'est vrai que souvent, quand il y a une communauté de communes, par exemple Aix-Marseille et la ville de Marseille, qui ne sont pas de la même couleur politique, là, ça peut clairement se passer les responsabilités. On l'entend souvent dans cette zone sur la propreté, que c'est la faute de la mairie, non, c'est la faute de l'interco. Et ça, je pense que ça rend fou le citoyen.
Ouais, on peut aussi prendre l'exemple certainement des Yvelines et d'un conseil départemental monochrome politiquement et d'un maire qui pourrait être de gauche localement. Je suppose que...
Oui, ça peut se démultiplier dans plein d'endroits.
Alors, on a aussi beaucoup parlé des politiques de décentralisation. Là, c'est une question un peu plus précise dans le débat public français. Et justement, comment cette décentralisation, elle a un peu transformé le rôle du maire depuis à peu près les années 1980. Est-ce qu'aujourd'hui, le maire, il a un rôle... réellement politique à part entière, ou c'est plutôt un gestionnaire, voire même un médiateur social. En fait, c'est quoi un maire en mars 2026 ?
Oui, alors pour remonter aux années 80, mais dans ce cas, on peut parler des lois de décentralisation sous Mitterrand, mais même sous Raffarin un peu plus tard, plutôt dans les années 2000-2003. Qui ont vraiment essayé de décentraliser, même si c'est très très critiqué encore aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on va beaucoup parler quand même d'un État centralisateur, de décisions qui ne se prennent qu'à Paris dans les ministères. Donc moi, je trouve que ces lois de décentralisation, ce serait quand même bien un jour de les mettre à plat ou d'en faire le bilan. Parce que par rapport à tout ce qu'on disait juste avant, c'est-à-dire mélanger les lycées, c'est la région, le collège, c'est le département, l'emploi, c'est un peu tout le monde, les politiques sociales, c'est plutôt le département, mais le maire peut quand même, comme vous le disiez, avoir un rôle. Franchement, je ne pense pas que ce soit d'une grande efficacité. Je pense que c'est aussi ce qui nous plombe, entre guillemets, dans le moment où on parle beaucoup d'impuissance politique. Mais moi, pour moi, le maire, c'est quand même une figure politique, dans le sens où, on l'a vu d'ailleurs aux dernières élections, quand les écologistes ont remporté des villes, on a vu des ruptures, des façons de faire différemment. Et d'ailleurs, qui peuvent être critiquées aujourd'hui. Mais quand même, un maire, il est élu sur... Bon, il peut être sans étiquette, mais c'est aussi une forme d'étiquette d'être élu sans étiquette. C'est quand même une élection très politique. Alors, il y a plein de petites communes qu'on oublie souvent, parce que c'est très difficile d'en parler de ces municipales, puisqu'on pourrait parler de chaque commune, chaque situation est différente. Mais si on globalise, on a quand même à chaque fois des enjeux politiques et des programmes qui s'affrontent. Hein, donc il y a quand même du pouvoir pour la mairie. Et donc on n'aura pas la même ville selon qu'on habite à Nice ou à Strasbourg. On n'aura pas les mêmes politiques publiques à Rennes ou à Toulouse, pour prendre des exemples de villes qui sont à peu près similaires en taille. Donc ça a quand même un impact politique, pour répondre.
D'accord, ok. Et donc on aura compris, effectivement, le maire reste pour vous un acteur politique à part entière. Un peu plus rapidement, pour une dernière question, on parle souvent de crise de vocation et de déperdition du mandat de maire. Est-ce que c'est un phénomène réel et comment on l'explique rapidement, selon vous ?
Alors oui, ça c'est un sujet très intéressant. On a quand même vu au cours du dernier mandat, la 2020-2026, beaucoup de démissions de maires. Je ne me souviens plus des chiffres, mais il me semble que c'est plus de 1000, parfois peut-être même 2000, il faudrait que je vérifie, c'est les chiffres de l'Association des maires de France qui les donnent. Donc démissions en cours de mandat, parfois des burn-out, il y a des maires qui ont écrit des livres sur le sujet, qui trouvaient que leur mandat n'avait plus de sens, qu'ils étaient trop sollicités, très mal payés, parfois aussi violentés, hein, on l'a vu, hein, ça a pu aller très très loin, hein, le maire de la Les Roses qui est aujourd'hui ministre, vous vous souvenez, pendant les émeutes, s'était fait, sa maison avait été brûlée ou envahie, il avait dû la fuir. On a un autre maire à Saint-Brévin qui avait été agressé parce qu'il avait accueilli un centre de réfugiés. Donc ils sont en telle première ligne qu'ils sont, et on est dans un tel moment, et je pense qu'on peut en parler encore plus aujourd'hui après ce qui s'est passé ce week-end, un tel moment aussi de violence politique que certains se décrivent des incivilités, voire des violences physiques à leur encontre ou des insultes. Hein. Et c'est aussi, entre guillemets, un peu la monnaie de la pièce de ce dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on a un État qui ne peut plus rien, qui est ruiné, et des Français qui sont en attente de choses qu'ils n'ont pas, voire avec des paniers percés, des grandes difficultés de revenus au 10 du mois, bah, on peut comprendre aussi cet agacement. Et donc, le premier qui prend, entre guillemets, bah, c'est le maire, même si ça n'excuse pas tout et qu'il y a aussi des violences qui sont bien sûr inacceptables. Hein. Donc il faut, moi je crois qu'il manque aussi beaucoup de civisme parce qu'on est dans un moment où il y a beaucoup d'individualisme, beaucoup de, il n'y a qu'à voir là dans le métro à Paris, les gens mettent leurs pas d'écouteurs. Enfin, je trouve qu'on est dans un moment où il faudrait se ressaisir un peu collectivement, mais c'est vrai que la situation politique globale et économique n'aide pas.
Je vois, merci beaucoup. Donc en fait, on est vraiment face à une hémorragie démocratique selon vous, une sous-dotation des communes et donc un besoin de civisme, comme vous l'avez rappelé. Astrid de Villene, vous restez avec nous. Et maintenant, quelques chiffres avec toi, Jade, pour mieux comprendre les enjeux des élections municipales.
Bonjour à tous. Oui, je vais vous faire un petit récapitulatif des chiffres cocasses et représentatifs des municipales, vous permettant de briller en société. Le saviez-vous, le nombre de communes françaises représente à l'échelle européenne 40% de celles-ci. C'est avec ces 34 875 communes que la France explose le score européen. Même si, depuis quelques années, c'est un chiffre qui en baisse avec le phénomène d'intercommunalité. On a tendance à regrouper des communes à des fins de coopération. Passons au maire. À vous de deviner. Quel âge a le maire le plus jeune de France ?
18 ans.
Ouais. Oui, tout à fait. C'est Hugo Boyet qui est devenu maire de sa commune aux élections de 2020. Inversement, quel est l'âge du maire le plus âgé de France ?
90,
70.
C'est Guy Delatte qui détient ce record. Il a aujourd'hui 94 ans. Ah oui. Et il a décidé de se représenter aux prochaines élections. Donc peut-être qu'un record va continuer. On va pour aussi s'intéresser au record du nombre de mandats consécutifs, car le code électoral français n'impose aucune limite de mandat pour se représenter en tant que maire. C'est donc avec leurs 11 mandats consécutifs que ces anciens maires Roger Seigné et Arthur Richer ont battu ce record. Ainsi, ils sont restés combien de temps en fonction s'ils ont fait 11 mandats ? Petit exercice de calcul.
66,
tout à fait. C'est ça. Au niveau des électeurs, maintenant, en 2020 marque plutôt le plus fort taux d'abstention enregistré lors des dernières élections. À partir de 2020, le pourcentage de personnes n'allant pas aller voter était autour de 30%. Il est passé à combien en 2020 au second tour ?
50.
Environ 58%. Donc je me permets de vous poser directement la question, Astrid de Villene. Ce chiffre est-il lié au contexte particulier du Covid ou illustre-t-il un désintérêt actuel assumé de la population envers ces enjeux ?
Bonjour, merci beaucoup pour cette question. Je pense qu'il faut vraiment la lier au Covid parce que si vous vous souvenez bien, on était quand même très très rapprochés avec le premier confinement, hein, même beaucoup de... responsables politiques trouvaient que c'était inacceptable de tenir ces élections. Donc on peut imaginer qu'il y a eu de la peur et une sorte de beaucoup de personnes qui ne souhaitent pas aller voter parce qu'ils ne voulaient pas tout simplement être au contact de, d'autres personnes. Donc il faudra scruter évidemment le premier tour de ce scrutin-là pour voir si ça se confirme ou pas. Mais moi, le sentiment que j'ai, c'est vraiment de la prédiction, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est qu'elles intéressent ces municipales, que les Français ont envie de voter, qu'il y a un intérêt, et que je pense qu'on arrive aussi en fin de cycle pour beaucoup de maires, et beaucoup qui ont été élus en 2001. Il y a beaucoup de villes, vous avez vu, qui sont dirigées par les mêmes majorités depuis 25, 30 ans. Peut-être qu'il y a une envie de changement, on verra.
Merci beaucoup Astrid de Villene. Dans la continuité de Jade, à travers sa chronique, on a pu avoir un aperçu chiffré du scrutin municipal. On entend souvent dire que c'est un scrutin à part par rapport aux autres élections. Alors ça peut aussi être vrai de l'élection présidentielle, de l'élection législative. Mais dans le cas des municipales, est-ce que c'est une réalité ou est-ce qu'on nationalise aussi ce scrutin local ?
Alors, on a toujours nationalisé les élections intermédiaires et notamment les municipales, hein, parce que souvent, elles sont un désaveu par rapport au pouvoir en place. Là, entre guillemets, l'avantage du pouvoir en place, c'est que comme c'est un jeune parti et qu'ils ne se sont pas beaucoup intéressés au terrain ou au municipal, ils n'ont pas beaucoup de villes. Donc souvent, ils soutiennent des candidats, vous voyez, mais ça va être difficile de dire qu'ils ont perdu vu qu'ils n'avaient pas beaucoup de victoires déjà. Mais ce sera très intéressant de scruter, puisque c'est le dernier scrutin avant la présidentielle, de scruter les premières tendances qui s'en dégageront. Parce que quand même, même si moi je pense vraiment que les Français votent pour un maire, pour un programme municipal, et c'est très important pour eux, mais on ne pourra pas s'empêcher quand même d'observer et de tirer des bilans et des leçons nationales, et c'est bien normal.
Alors, on est un peu pris par le temps, mais un peu plus rapidement, il y a 34 000 communes en France, comme on l'a dit, plus de 34 000. À nous seuls, on représente du coup vraiment un tiers des communes européennes. Quand on sait ça, on se demande assez vite quel est le poids des partis politiques dans ce scrutin par rapport justement à cet éparpillement des communes sur tout le territoire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Oui, parce qu'en plus, en fait, on a une sorte de vision déformée, nous, journalistes nationaux à Paris, de se dire on va regarder les grandes villes. Mais c'est très intéressant de regarder les 15 plus grandes villes. Je pense qu'il faudra quand même scruter Le Havre, hein, où Édouard Philippe n'est pas du tout sûr d'être reconduit maire, et donc il y aura des conséquences pour lui sur sa candidature. Je pense que si Nice bascule chez Éric Ciotti, ce sera intéressant. Si Marseille bascule au RN, ce sera un énorme signal pour l'année prochaine. Donc c'est normal qu'on regarde ça. Mais ce qui est vrai, c'est que ça ne représente absolument pas tous les Français qui votent, et qu'en fait, la plupart des villes, souvent ce sont des maires sans étiquette, souvent ce sont des maires aussi qui n'ont qu'une seule liste parce que personne ne veut y aller et que déjà une liste c'est difficile de la constituer dans des petits villages. Maintenant moi je pense que moi je suis assez attachée à ce maillage territorial français. Je pense qu'on est quand même, voilà, dans les villages de France, on est attaché à la mairie, quoi. C'est quelque chose qui est, c'est un point de repère, et donc dans cette période où on en manque, je pense qu'il faut pas y toucher.
D'accord. Peut-être une dernière question, ou une avant-dernière, mais on observe, enfin, est-ce que de votre point de vue, est-ce qu'on observe une fracture justement entre les grandes villes et les plus petites communes dans la diversité des comportements électoraux pour les municipales ?
Alors ça c'est très intéressant. Je pense qu'en effet l'un des grands bilans qu'on avait tous tiré en 2020, c'était la victoire écologiste, la victoire dans des grandes villes, hein, justement. Hein. Poitiers, Bordeaux, Grenoble qui avait été renouvelé, Strasbourg, etc. Ça avait été l'enseignement un peu principal à un moment où, vous vous souvenez, il y avait les marches pour le climat, etc. On n'est plus du tout dans ce contexte, donc ce sera très intéressant de scruter ça. Et donc, on dit souvent que les écologistes ont des mairies dans des grandes villes, urbaines, voilà, qui sont intéressées par ces sujets-là et pas forcément à la campagne. Parfois, c'est un peu caricatural aussi parce qu'ils sont aussi présents dans des conseils municipaux plus ruraux. Mais moi, je pense qu'il faut nuancer ça. Ce qui était aussi intéressant à la dernière municipale, c'était le RN qui n'avait pas vraiment eu de conquête. Donc, est-ce que cette fois, ils y arriveront plus ? Notamment, eux, leur enjeu, c'est plutôt les grandes villes. Et en fait, ce qui était très intéressant en 2020, c'est de voir que 3 ans après l'élection d'Emmanuel Macron, qui avait été quand même une forme de chamboule-tout dans les classiques du Parti Socialiste et des LR, ces deux partis-là résistaient très très bien, en fait, dans des villes aussi bien grandes que petites, vous voyez. Et donc, est-ce que là, ils arrivent quand même à un point où, en fait, ils vont se faire concurrencer, ou est-ce qu'ils vont encore résister sur ces gouvernances municipales? C'est ça, à mon avis, qu'il faudra regarder. Parce que ça, typiquement, c'est des partis qui ont une telle longévité qu'ils ont réussi à avoir... ils ont tellement dominé la vie politique qu'ils avaient aussi bien des villages que des grandes villes métropoles. Est-ce que la France insoumise arrivera à s'implanter dans des petites villes? C'est pas dit. Mais ce sera intéressant à regarder. Vous voyez, c'est les jeunes partis, en fait. Renaissance et LFI, ce sera vraiment intéressant de voir s'ils arrivent à faire quelque chose. Et le RN, qui est beaucoup moins jeune, mais qui a du mal quand même à avoir des villes symboliques, même s'ils en ont, hein, quand même, Perpignan, Hayange, Hénin-Beaumont, est-ce qu'eux, ils arriveront à avoir des conquêtes bien plus massives? Et puis ensuite, évidemment, Paris. On regardera Paris. Si Paris bascule à droite, ce sera l'enseignement principal, parce que ça fait 25 ans que ce n'est pas arrivé. Et souvent, nous, journalistes, on aime bien les nouveautés, comme vous le savez.
Merci beaucoup, Astrid de Villene. On continue à parler des municipales et de nos grandes métropoles. Vous êtes bien sur Radio Campus Paris. Alors cette année, certaines villes reconnaissent des changements sur le mode de scrutin pour les élections municipales. Salut Céline.
Bonjour Baptiste.
Alors avec la réforme PLM, les électeurs à Paris, Marseille et Lyon voteront pour la première fois au suffrage universel direct pour élire leur maire. Mais qu'est-ce que la réforme PLM change, Céline?
Alors, la réforme PLM, adoptée en 2025, vient faire des changements sur les élections, des gros changements sur les élections municipales dans les trois grandes villes. Pour rappel, à Paris, Marseille, Lyon, le vote se faisait au suffrage indirect, c'est-à-dire qu'on votait pour élire les conseillers d'arrondissement ou de secteur, qui à leur tour élisaient les conseillers municipaux. Avec la nouvelle réforme, l'élection sera faite avec deux scrutins distincts et simultanés, l'un pour les conseillers d'arrondissement et l'autre pour les conseillers municipaux. De plus, la prime majoritaire passe de 50% à 25%. En gros, avant, la liste majoritaire obtenait la moitié des sièges au conseil et les 50% restants étaient distribués proportionnellement. Maintenant, la liste en tête obtient automatiquement seulement le quart des sièges. Et bien en conséquence, on voit des nouvelles alliances apparaître comme dans le cas de Emmanuel Grégoire, le successeur d'Anne Hidalgo à Paris. On parle d'une alliance entre PS, PCF, les écologistes et la place publique. Un des objectifs de cette nouveauté est également de régler le problème des distorsions démographiques en ouvrant la voie vers des élections plus démocratiques. Du côté des candidats, les réactions restent assez variées. À Paris, Rachida Dati est pour cette réforme pendant que Anne Hidalgo s'y oppose, tandis qu'à Marseille, la gauche est plutôt favorable et le contraire pour la droite. Ceci explique par différentes stratégies mises en place pour remporter les élections. D'autre part, la réaction du Sénat face à la réforme a notamment été particulièrement intéressante parce qu'il s'est opposé tout au long du processus pour des motifs comme la clarté de lisibilité du scrutin ou encore comme le coût financier de la réforme qui est estimé de 15 millions d'euros. Finalement, on peut dire que cette réforme est assez discutée sur le plan politique et institutionnel et on attend de voir les conséquences sur les prochaines élections.
Merci beaucoup Céline. Astrid de Villene, vous êtes toujours avec nous pour parler des municipales et de la réforme dite PLM. Cette réforme, pour moi, elle fait écho, de mon point de vue, à la multiplication un peu des intercommunalités, des communes nouvelles, mais aussi à votre livre et au chapitre sur la décentralisation. Je vais formuler ma question un peu comme dans votre livre. Est-ce qu'il y a trop d'échelons administratifs en France?
Je ne sais même pas si on y répond comme ça dans le livre, mais je ne sais pas s'il y en a trop, mais je pense qu'ils sont mal, ils s'articulent mal, vous voyez, parce qu'il y a tout. Si vous vous souvenez, on avait fait des cercles un peu pour expliquer les compétences qui se chevauchent en fait entre chaque entité qui a du pouvoir dans ce pays administratif. Donc sans doute qu'il faudrait en tout cas peut-être revoir ça à l'aune de aujourd'hui, comment rendre l'État plus efficace. Maintenant, moi, je ne fais pas totalement le lien avec la loi Paris-Lyon-Marseille. Hein. Je pense que cette loi, c'était ce qu'on appelle un serpent de mer. C'est-à-dire que ça fait plusieurs années que beaucoup de groupes politiques ou de candidats dans certaines villes, Paris, Lyon, Marseille, la souhaitaient, que là, elle a été quand même faite, entre guillemets, un peu pour Rachida Dati, vous voyez, parce qu'elle la soutenait, elle pense qu'elle peut gagner Paris comme ça. Elle se sentait empêchée par ce qu'on appelait des swing, comme ce serait comme aux États-Unis des swing states en fait, les arrondissements, vous voyez, c'est-à-dire qu'on votait pour des arrondissements et ensuite les conseillers d'arrondissement, enfin élus au Conseil de Paris, votaient eux de manière indirecte pour le maire. Là, ça veut dire que si vous êtes dans le 19e, qui est un arrondissement plutôt de gauche, vous pouvez être une majorité à voter Dati, même si vous votez pour votre conseiller d'arrondissement de gauche. Vous avez deux scrutins. Donc c'est plus, pour moi, une sorte de personnalisation du maire et une forme aussi d'uniformisation par rapport aux autres villes de France. Vous voyez, il y avait un peu une exception. Donc ça va être extrêmement passionnant de voir les résultats de ce scrutin hein, sur les votes dans ces trois grandes villes.
Merci beaucoup. Pour conclure de manière la plus globale possible et en faisant justement référence à votre livre, est-ce que pour comprendre les institutions aujourd'hui, est-ce que c'est un enjeu démocratique central et comment mieux les rendre lisibles aux yeux des citoyens ?
C'est vrai, d'ailleurs c'est vraiment pour ça qu'on a écrit ce livre de la manière la plus pédagogique possible, illustré avec des petits bouts d'histoire, de coulisses, de mécanismes un peu à picorer, vous voyez, comme le fait très bien Larousse dans des domaines qu'on ne connaît pas. Moi je pense que c'est essentiel de s'intéresser aux institutions et je constate que les Français s'y intéressent beaucoup. Alors c'est sûr qu'on est entre guillemets porté par l'actualité, les élections, les échéances électorales qui arrivent, la dissolution de 2024, le fait qu'il n'y ait pas de majorité à l'Assemblée, qu'on soit toujours en train de chercher un recoin d'amendement dans la Constitution. Moi j'ai vraiment essayé de la rendre dynamique, de la reprendre et de la rendre la plus facile à comprendre possible parce que je pense qu'on a besoin, quand on s'intéresse un peu à l'actualité politique, de comprendre les mécanismes. Donc normalement, dès que vous entendez un mot dans l'actualité, bah là ça va être PLM. Eh ben, vous pouvez aller, page je ne sais combien, trouver la loi PLM dans le livre. Avant, c'était la CMP, commission mixte paritaire, quand il y avait des projets de loi retraite, vous voyez. Donc j'espère que les Français vont se les approprier. Ce que je remarque quand je fais un peu la tournée des librairies, c'est que vraiment, c'est un sujet qui intéresse, qui est complètement transpartisan, parce qu'en fait, c'est ce qui nous rassemble encore. C'est le cadre qui fait qu'on est ensemble dans un moment où on est extrêmement divisé, polarisé. Et donc moi, je trouve que c'est passionnant de s'y intéresser. Je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi à penser, à réformer, à dépoussiérer. Elle est très vieille, cette Constitution. Mais c'est très gentil, en tout cas, d'avoir parlé du livre. J'espère qu'il trouvera de nouveaux adeptes grâce à vous.
Merci beaucoup, Astrid de Villene, pour cette synthèse et d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes journaliste à France Culture et autrice du livre « Décrypter les institutions politiques » aux éditions Larousse. Merci à toute l'équipe de l'émission, à Aidé et Nola pour le micro-trottoir, Jade, Mathilde et Céline pour leur chronique et Brittany à la réalisation. Cette émission est à réécouter sur radiocampus.org et sur toutes les applications de podcast. Dans un instant, on continue à parler des élections municipales dans la matinale de 19h. Restez à l'écoute de Radio Campus Paris.